Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry.
Et bonjour, bonjour Émilie.
Aujourd'hui, vous posez la question, les pays émergents peuvent-ils acquérir de la puissance politique?
Voilà, avec notre invitée Sophie Lefèze, qui est chercheuse associée à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, c'est notre partenariat avec la Revue Internationale et Stratégique, qui est consacrée donc pour cette livraison, c'est un trimestriel, à l'émergence, d'ailleurs émergence avec un S à la fin, entre parenthèses, Sophie Lefèze, bonjour.
Bonjour.
Alors la notion d'émergence est très élastique et donc peut stabiliser. Les économistes s'ingénient à retenir des critères différents pour définir l'émergence. En tout cas, la plupart souhaitent acquérir un certain degré d'autonomie dans des secteurs clés. Et c'est le thème de votre article. L'émergence est-elle synonyme de puissance? On va voir que la plupart de ces pays veulent détenir, sinon des secteurs d'excellence, en tout cas des marges de manœuvre, notamment industrielles, pour favoriser leur essor dans l'armement, l'énergie, l'environnement, les industries civiles, etc. Et donc, comment s'y prennent-ils dans la durée, avec quel taux de succès? Cette notion d'autonomie stratégique, pour vous, est importante?
Oui. C'est dans les pays émergents, un certain nombre d'entre eux ont eu une expérience qui les a amenés à se rendre compte que s'ils voulaient défendre leurs intérêts stratégiques, ils avaient besoin de compter d'abord sur eux-mêmes et pas sur les autres. Et c'est ce point qui a été le déclencheur de leur désir d'avoir en propre les moyens de répondre à leurs ambitions. Donc c'est notamment le cas de la Corée du Sud, de la Turquie, du Brésil ou de l'Inde. Si on prend le cas par exemple de la Corée du Sud ou de la Turquie, c'était deux pays qui étaient dépendants entièrement du soutien américain en termes d'équipement, de formation, de doctrine, et qui ont eu donc, comme je disais, au cours de leur histoire, un événement où ils se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas forcément toujours compter sur ce soutien américain. Par exemple, pour la Turquie, ils ont mis en œuvre par la suite des velléités d'envahir Chypre. Ils ont reçu une lettre du président américain en 1964 qui leur disait en substance que s'ils comptaient donc envahir l'île et s'ils avaient des représailles soviétiques, ils ne devaient pas compter sur le soutien américain.
Ça n'a pas empêché Ankara d'ailleurs d'occuper 38% de Chypre en 1974 avec d'une certaine façon les yeux fermés des États-Unis et surtout notamment lors de la seconde intervention. L'OTAN a des responsabilités importantes en la matière, mais on referme la parenthèse à propos de Chypre. On y reviendra, c'est normalement le sujet d'ailleurs de lundi prochain, Chypre. Alors pourquoi ces quatre pays, les avez-vous choisis? Brésil, Corée du Sud, Turquie.
Parce qu'ils ont un certain nombre de points communs et on peut également trouver aussi des contre-exemples parmi ces pays-là qui permettent de mettre en évidence les moyens qu'ils mettent en œuvre pour répondre à cette ambition d'autonomie stratégique.
Alors, cette autonomie stratégique, comment est-elle voulue précisément? Et ce qui est très frappant, et à vous lire, donc, Revue Internationale et Stratégique, c'est quand même la volonté politique.
Tout à fait. Ce sont des pays qui se donnent donc cet objectif-là. C'est affiché, c'est marqué dans des textes officiels, c'est marqué dans des textes de loi. Donc c'est clairement dit. Par exemple, la Corée du Sud, la Turquie et le Brésil ont adopté des lois où ils disent voilà, donc nous mettons en place tel type d'organisme ou tel type de système pour développer la compétitivité de notre industrie de défense et parvenir à être donc autonome dans la satisfaction de nos besoins militaires.
Est-ce que ça suppose quand même un régime relativement stable, quelle que soit la nature précisément de ce régime? Est-ce que ça suppose une forme de longévité, de stabilité?
Oui, parce qu'il faut des décennies pour parvenir à cette autonomie. Ça a été d'ailleurs le cas de la France aussi, hein, qui s'est lancée après la Deuxième Guerre mondiale. Il faut peut-être, je dirais, 60 ans minimum pour y arriver. Donc effectivement, ça demande de la patience et une cohérence en matière de politique. Un certain nombre de facteurs. Voilà,
Ça ressemble, vous évoquiez la France dans les années 50, je suppose, et surtout 60, ça suppose quand même une forme presque de planification.
Oui. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est quand même très compliqué d'y arriver. Il faut des compétences en matière de ressources humaines, en matière de politique scientifique, de soutien à l'innovation. Également un suivi. Donc l'autonomie stratégique, c'est comme je disais, avoir une industrie qui détient les compétences pour équiper ses forces armées. Donc il faut suivre où nous en sommes en termes de compétences dans le domaine terrestre, dans le domaine naval, dans le domaine aéronautique, en matière énergétique, en matière de matériaux, etc., etc.
Alors justement, il y a un entretien très intéressant avec Pierre Salama qui avait publié dans la revue, qui avait publié il y a quelques temps un ouvrage intitulé « Les économies émergentes latino-américaines ». Et puis il y a une spécialiste des pays émergents aussi, c'est Laurence Daziano qui était venue ici aussi avec son ouvrage « Les pays émergents, approche géopolitique ». Il y a une chose intéressante, c'est quand même l'appropriation d'un certain nombre de secteurs d'excellence dans la durée. C'est-à-dire au fond, essayer de détenir du savoir-faire sur le long terme.
Oui, parce qu'on on sait que souvent les États aujourd'hui demandent des transferts de technologie, c'est-à-dire je veux bien vous acheter des matériels, mais vous me dites comment je les fais moi-même par la suite. Et donc se pose la question de la compétitivité de nos industries qui transfèrent ces technologies-là. Mais en fait, c'est un peu comme l'enseignant qui apprend des choses à ses élèves, ce n'est pas parce qu'il dit certaines choses que les élèves comprennent 100% de ce qu'il dit. On peut faire, je pense, ce parallèle-là. Il faut s'approprier le savoir et le savoir-faire qui est transmis. Et c'est là où le cas de l'Inde est intéressant, parce qu'il a donc cette politique de demande de transfert de technologie depuis, disons, les années 60. C'est à peu près le même cas pour la Corée du Sud. La Corée du Sud est aujourd'hui quasi autonome en matière aéronautique, qui est un domaine technique assez complexe. Alors que pour le cas de l'Inde, on voit que 70% de ses achats d'équipements se font encore à l'étranger. Et on entend actuellement parler du cas des ravitailleurs et des avions de chasse. Et les 30% qui restent concernent essentiellement des matériels à faible niveau technologique. Donc on voit qu'on a beau transférer des choses, il faut quand même un certain nombre de conditions autour. On peut parler donc de la formation. Il faut également savoir gérer des programmes complexes. Enfin, bref, voilà. Donc il faut penser au-delà du simple transfert de technologie, comment faire en sorte de réellement s'approprier ce qui nous est transmis.
Oui, il faut non seulement avoir des élites, mais en même temps des classes supérieures, des classes moyennes, et ainsi de suite, et être installé dans un véritable projet. Est-ce que ces pays, la plupart du temps, selon vous, Sophie Lefèze, respectent les règles internationales, du commerce international ?
Eh bien, comme les règles invitent fortement au libre-échange, vous comprenez bien, enfin, si chacun s'achète ses matériels, en fait, il n'y a plus de commerce international. Donc, effectivement, nous disons au début, il y a cette volonté affichée dans les textes de loi, donc de parvenir à cette autonomie. Et vous avez donc notamment l'Inde qui explique donc dans un de ses textes que, étant donné les spécificités du marché militaire, il ne sera pas possible de respecter les règles du commerce international. Voilà, donc là aussi, c'est clairement dit, c'est affiché.
C'est aussi une recherche de l'autonomie, on va dire, commerciale, du coup, non seulement politique, industrielle, mais commerciale aussi. Oui, vous le pensez ?
Pour la Corée du Sud, la Turquie et le Brésil, par exemple, ils mettent en avant que développer leur base industrielle de défense aura des retombées sur leur économie globale. Donc c'est un argument qu'ils mettent pour soutenir leur propre développement économique, de manière générale.
Voilà, en tout cas, merci de cet éclairage, Sophie Lefèze. Et je rappelle la revue internationale et stratégique consacrée à la notion d'émergence. Et franceculture.fr, bien sûr, pour écouter l'émission, la télécharger. Demain, nous allons parler de l'action humanitaire avec Philippe Riffman. Et à propos d'ailleurs de la parution, de la réédition, réactualisation, refonte d'un de ses ouvrages en la matière.